Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Nemeth.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Comme chaque vendredi, vous le savez, c'est notre rituel une fois par semaine. Le micro, l'antenne vous sont ouverts, c'est la libre antenne. Vous nous interpellez sur les sujets de votre choix, les sujets qui vous intéressent, que ce soit dans l'actualité africaine, dans l'actualité française ou ailleurs dans le monde. Des actualités qui font peut-être la une des médias, mais pas seulement, des sujets qui auraient peut-être été oubliés ou un peu moins développés dans les médias, dans la vie de tous les jours. Pas de tabou sur RFI et dans Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez aussi sur notre adresse email appelaupluriel.actu@rfi.fr ainsi que nos comptes Twitter et Facebook. Ça réagit énormément sur Facebook avec bien sûr le Burundi. Hein, beaucoup de messages sur notre profil. Archangel qui nous dit: je dénonce l'hypocrisie des Occidentaux. Ils soutiennent la répression et le troisième mandat illégal de Nkurunziza. Abdourahim qui nous dit: vive les militaires africains qui sauvent toujours leur population face au président dictateur qui assaille le continent. Sauf que voilà, la situation a beaucoup évolué au Burundi. On annonce... Plusieurs sources annoncent le retour de président Pierre Nkurunziza au Burundi à Bujumbura. Le coup d'État lancé par des militaires mutins a échoué. Les leaders, certains leaders de cette mutinerie ont été arrêtés. Situation toujours en évolution, situation toujours instable au Burundi. Un premier auditeur qui nous appelle justement de Bujumbura, la capitale. Il s'agit d'Eugène. Bonjour Eugène.
Bonjour Monsieur Sébastien.
Alors, vous êtes étudiant, comment réagissez-vous à l'évolution de la situation, à cet échec du coup d'État contre Pierre Nkurunziza ?
Tout à fait, je suis un étudiant à l'unique université nationale. Moi, je sens un sentiment de trahison. Je crois que la communauté internationale nous trahit en ce moment où elle devrait intervenir pour empêcher au président qui veut se maintenir au pouvoir. Donc il faut que cette communauté agisse. Il ne faut pas que cette communauté se contente des coups de semonce seulement.
Là, le coup d'État a visiblement échoué. Que peut faire, selon vous, désormais la communauté internationale? Est-ce qu'elle doit prendre acte de cet échec ou de faire pression sur Pierre Nkurunziza pour qu'il ne se présente pas un troisième mandat? Quel doit être son rôle, là, aujourd'hui, selon vous?
Je crois que comme la communauté internationale a condamné ce coup d'État, qui se comprend surtout que le président en place a été élu par le peuple, il fallait qu'elle fasse de même pour que le président ne se maintienne au pouvoir malgré la volonté du peuple, malgré la volonté de cette même communauté. Surtout en tête devraient venir les États-Unis d'Amérique, dont le président lors de la signature était présent. Car pour moi, si le président se maintient, ça serait une humiliation pour cette puissance.
Là, vous avez vu, il y a un nouvel appel à manifester. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à redescendre dans la rue contre cette troisième candidature?
Et avant ce coup d'État manqué, personnellement, j'avais été manifesté. Mais pour le moment, je crains pour la répression qui peut suivre ce coup d'État, car le gouvernement pourra lier ce coup d'État manqué au mouvement de manifestation.
D'accord, donc des craintes évidemment d'une nouvelle répression. Merci beaucoup Eugène d'avoir été en ligne depuis Bujumbura. On continue à parler du Burundi dans la libre antenne aujourd'hui avec Ambroise qui est en région parisienne. Bonjour Ambroise.
Oui, bonjour, j'appelle de Cachan, dans la région Île-de-France. Voilà, moi je rejoins un peu ce que disait cet auditeur précédent-là, quand il parle de trahison. Vraiment, moi c'est un coup de gueule, je m'insurge, je compte le silence assourdissant et complice de ce qui est dit, entre guillemets, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Un silence assourdissant. Le peuple demande quelque chose. Ce peuple a élu quelqu'un pour deux mandats. Ce monsieur veut se représenter pour un troisième mandat et sans respecter les accords. Et à côté de ce silence de la communauté internationale, celui qui me désole davantage, c'est celui de la congrégation africaine de l'UA, des présidents africains, qui sont prêts à condamner quelque chose et jamais à proposer de véritables solutions. L'UA a fait preuve de complicité totale à l'endroit de Nkurunziza, parce que ce que j'ai entendu dire hier par le président du Tchad, il condamne le coup d'État. C'est la même chose qu'on a dit de l'autre côté quand au Burkina Faso, Blaise Compaoré a été chassé. Il est inadmissible qu'on ait deux poids, deux mesures sur une situation identique. Blaise Compaoré a voulu changer la constitution, il a été chassé. Nkurunziza veut modifier les accords d'Arusha et se représenter pour une troisième fois alors qu'il n'en a pas droit. Voilà, d'un côté on bénit, de l'autre la communauté internationale applaudit des deux mains et donne le pitus à Nkurunziza de se représenter sans aucun problème. Et moi la crainte, là, qui, dans les jours à venir, c'est la chasse à l'homme, c'est que la population qui est descendue dans la rue va être prise pour cible. Les 20 morts de la semaine dernière, des précédentes semaines, ne suffiront pas pour arrêter Nkurunziza.
Alors restez en ligne, Ambroise, parce que j'aimerais qu'on fasse réagir Brisday sur ce point. Brisday, vous êtes en ligne depuis Arras, dans le nord de la France. Vous nous entendez ?
Oui, je vous entends, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Ambroise qui dit qu'il craint un brin de sang, une nouvelle répression avec le retour de Pierre Nkurunziza dans le pays ? C'était également la crainte d'Eugène depuis Bujumbura. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs, parce que nous, aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique n'a plus besoin des gens comme Nkurunziza. Plus besoin des gens comme Nkurunziza. Nous, on a besoin de cette communauté internationale pour nous appuyer, pour appuyer les peuples africains qui veulent leur liberté, qui veulent choisir leurs dirigeants.
Mais Brisday, qu'est-ce que la communauté internationale aurait dû faire ? Est-ce qu'il aurait fallu, prendre des sanctions ? Que sais-je ?
Oui, mais là, il y a un homme, ce général qui a eu le courage de dire en Nkurunziza, ne vous représentez pas. Nkurunziza est passé outre. Cet homme a pris le courage. Il a pris son courage avec ses compatriotes, avec ses amis militaires, pour mettre fin à cette situation. La communauté internationale. Moi, par principe, je ne suis pas pour les coups d'État. Je suis contre les coups d'État par principe. Mais là, pour moi, ce n'est même pas un coup d'État. Pour moi, cet homme a voulu éviter à la population burundaise une catastrophe. Parce que Nkurunziza, c'est un danger pour la démocratie au Burundi et en Afrique. C'est un danger. Et alors, aujourd'hui, la communauté internationale, que doit-elle faire ? Barack Obama a annoncé hier, les États-Unis, que Nkurunziza était le président légitime. Nkurunziza, il rentre au Burundi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Les 20 morts, que mon prédécesseur vient de parler, les 20 morts vont se multiplier par combien ? Alors, aujourd'hui, il faut tout faire pour que Nkurunziza ne se représente pas. La communauté internationale doit user de tous les moyens possibles pour empêcher Nkurunziza d'être candidat, pour empêcher que Nkurunziza et sa bande prennent pour cible les opposants et la population burundaise qui manifeste. Ils ont mon soutien et je pense qu'ils ont le soutien de la majorité de la population africaine, pas des chefs d'État africains, parce que les chefs d'État africains, l'Union européenne, c'est une bande de voyous. Pour moi, c'est une bande de voyous, excepté quelques-uns qui respectent la démocratie dans leur pays. Mais la majeure partie sont des chefs d'État voyous qui ne sont là que pour se maintenir au pouvoir, pour faire souffrir leur peuple. Ils ne veulent pas partir. C'était l'occasion de montrer qu'il y avait des officiers capables d'agir en toute responsabilité et des gens justes et honnêtes.
Eh bien, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, des jours cruciaux pour l'avenir du Burundi, avec le retour du président annoncé à Bujumbura, selon certains de ses proches, et un coup d'État qui a échoué avec l'arrestation de plusieurs putschistes, de certains leaders des groupes putschistes. Merci beaucoup à Brisday d'avoir été en ligne depuis Arras. On salue Ambroise aussi, qui nous appelait depuis Cachan, région parisienne. 39 693 693 70 09 693 2 fois 70. Au standard, nous sommes en compagnie d'Ahmed, qui est à Cancan, dans l'est de la Guinée-Conakry. Bonjour Ahmed.
Bonjour, Sébastien.
Vous vouliez aborder un autre sujet concernant votre pays, la Guinée, c'est le retour annoncé de Moussa Dadis Camara, l'ancien leader de la junte en 2008-2009 après la mort du président Lansana Conté, et qui a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour vous, comment vous réagissez à cette annonce de Moussa Dadis Camara ?
Oui, Sébastien, j'avoue que c'est une annonce qui a pris tout le monde de court. L'annonce est à la fois spectaculaire et intéressante dans le contexte politique actuel de la Guinée. Ça prouve qu'il y a des leaders et des patriotes guinéens qui voudraient changer la donne politique en Guinée. Et je pense que c'est bienvenu dans l'atmosphère actuelle de la politique guinéenne.
Ça va faire quoi? Ça va mettre un peu de piment en fait dans cette campagne?
Oui, ça va mettre du piment, ça va mettre de la moutarde même dans cette campagne. Parce que, voyez Sébastien, on en arrive à une impasse totale dans ce pays aujourd'hui, dans l'arène politique, parce que les acteurs politiques aujourd'hui en face, je veux parler de l'opposition et de la mouvance présidentielle, sont à un tel point on est figé. Alors il faudrait qu'une nouvelle génération du type Moussa Dadis Camara, vous allez me dire encore, c'est bien entendu, il y a la fameuse affaire de TPI et tout ça.
Effectivement, j'allais vous le dire, puisqu'il est cité dans l'assassinat de 157 opposants, c'était le 28 septembre 2009 lors d'un rassemblement à Conakry, c'était un rassemblement contre sa candidature à la présidentielle de 2010. Il a pour l'instant été entendu comme témoin dans cette affaire, mais le dossier est toujours en cours. Est-ce qu'il peut se présenter alors qu'il a une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête?
Ben oui, je pense que constitutionnellement, il faudrait d'abord que sa candidature soit, au vu de la constitution guinéenne, soit acceptable. Et je pense que les éminents juristes vont se pencher sur ça. Mais ce cas-là ne tienne. Moi, je pense que aujourd'hui, le jeu politique guinéen a besoin d'un peu plus de piment et de moutarde pour changer un peu toute cette comédie. Vous voyez que l'opposition guinéenne nous fait voir tous les jours avec des descentes
dans les rues. Qu'est-ce contestation effectivement avec beaucoup de manifestations, une répression également, il y a eu plusieurs morts, des blessés, des interpellations, contestation contre le changement de calendrier électoral qui retarde les élections locales. Restez en ligne Ahmed parce que j'aimerais qu'on fasse réagir Ibrahima qui lui est à Moscou en Russie. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce que vous pensez vous de ce retour de Moussa Dadis Camara? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le pays selon vous?
Non, mais écoutez, selon moi, c'est une mauvaise idée. Moussa Dadis Camara, il connaît sa situation actuellement. Il doit, selon moi,
Ibrahima, malheureusement, je suis obligé de vous couper parce que la ligne se dégrade vraiment avec Moscou, avec la Russie. Je reviens vers vous, Ahmed. Vous êtes toujours là?
Oui.
Ahmed, j'ai une question pour vous. Est-ce que Moussa Dadis Camara ne profite pas du fait que l'opposition et le pouvoir sont en conflit ouvert, conflit assez violent? Est-ce qu'il ne profite pas de cette tension pour essayer d'incarner une troisième voie, en quelque sorte?
Je pense que c'est légitime, si, comme vous le dites, profiter. Si on peut profiter de façon légitime et de façon constitutionnelle d'une opportunité qui s'ouvre pour sortir le pays de la crise, de cette impasse-là, là, de violences récurrentes dans les rues avec des morts d'hommes et des casses à longueur de journée. Vous voyez, c'est dommage, Sébastien. L'opposition guinéenne, et ça, je pense qu'elle est arrivée à un point de non-retour. Tout le monde a compris qu'en Guinée, aujourd'hui, il n'y a pas de solution de rechange avec cette opposition qui ne fait que descendre dans la rue. Que la rue est toujours la rue, encore la rue.
Et Moussa Dadis Camara qui pourrait donc incarner une alternative selon vous. Pardon de vous couper Ahmed, mais il y a du monde encore au standard qui veut participer à la libre antenne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en ligne depuis Cancan en Guinée. 33 9 693 693 70 en ligne depuis Bamako au Mali. Nous sommes avec Badara. Bonjour Badara.
Oui, bonjour Sébastien.
Vous voulez évoquer l'accord concernant le Mali, accord signé le 1er mars le 1er mars par le gouvernement, qui doit être signé aujourd'hui par Bamako encore et qui a été paraphé, je le précise bien, hier par les rebelles. Que pensez-vous de cette évolution dans le processus de paix?
Moi, je pense que le paraphe de ces groupes armés n'est pas du tout une surprise. J'avais dit sur vos antennes que quoi qu'il arrive, donc ces groupes-là allaient paraphier ce document. Et je suis certain qu'ils vont signer ce document-là. Aujourd'hui, certes, c'est la communauté internationale qui a fixé un deadline. Et toute la communauté internationale, il y a plus de 20 chefs d'État et de gouvernement qui sont à Bamako pour témoigner de ce qui va se passer au Mali par rapport à la paix. Et aujourd'hui, les populations du nord du Mali sont en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir, ces populations-là. Et c'est un groupuscule de personnes qui sont en train de prendre en otage la vie des gens qui sont en train de souffrir, qui manquent de beaucoup, qui manquent de points de santé, qui manquent d'eau, qui manquent d'infrastructures de développement. Donc moi, je pense que ces groupes-là sont obligés de venir sur la table de la paix. Ils sont obligés donc de faire face à la réalité. Ils laissent tomber leurs intérêts économiques, leurs intérêts narcotrafiquants, leurs intérêts djihadistes pour faire face aux souffrances que les populations sont en train de vivre aujourd'hui dans le nord du Mali, qui vaut 2 à 3 fois franchement le territoire français.
Alors, on va peut-être pas accuser la CMA d'être des djihadistes ou des narcotrafiquants. Néanmoins, j'entends votre propos en disant que la coordination de la Zawad n'a pas d'autre choix que de signer cet accord. Restez en ligne, Badara, parce que j'aimerais qu'on écoute ensemble ce qu'a à dire sur ce dossier Issiaka, qui lui aussi est dans la capitale malienne. Bonjour Issiaka.
Oui, bonjour Sébastien et bonjour à tous les étés de la RFI.
Alors Badara nous dit que cet accord sera signé quoi qu'il arrive, aujourd'hui ou plus tard. Selon vous, est-ce que si cet accord est signé, est-ce que ça réglera le problème? Est-ce qu'on sortira de la crise?
Il est quand même bon que tout bon citoyen comme moi puisse envisager la mise en place, la signature d'un bon accord. Mais moi je suis très très sceptique. Vous comprenez, Sébastien, parce que je suis sceptique du fait que aujourd'hui cet accord n'a pas un avenir. Cet accord que moi je considère déjà un accord qui est mort avant d'être né, parce que nous avons passé plus de 8 mois à discuter avec ces groupes armés dans la capitale algérienne, et actuellement nous sommes ramenés à obliger, comme le dit Badara tout de suite, ils sont obligés. C'est ce mot obligé moi qui me gêne. Pourquoi discuter avec des personnes pendant 8 mois pour la paix dans un État, et que nous revenions au bout de ces discussions, et que nous sommes obligés à exiger de ces personnes à signer un accord. Vous comprenez? Et moi, je ne sais pas comment nous allons parvenir à faire en sorte que des personnes, des bandits armés, exigent à signer un accord puissent respecter leur signature.
Et toute la question appliquer cet accord qui prévoit notamment la création d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct, ça c'est un des gros points de cet accord. Merci beaucoup Issiaka d'avoir été en ligne depuis Bamako. On salue Bandara qui était lui aussi dans la capitale malienne. 339 693 693 70 en ligne avec nous. Jean, bonjour.
Oui, bonjour Sébastien et à la radio internationale.
Vous vouliez aborder les primes pour les joueurs ivoiriens, les éléphants qui ont gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en Guinée équatoriale en février dernier. Une partie de ces primes n'a pas été versée. Et là, il y a eu le limogeage du ministre des Sports Alain Lobognon. Comment vous réagissez à cette affaire?
En effet, je trouve personnellement que la question n'est pas forcément le limogeage du ministre, mais c'est de voir effectivement aboutir l'enquête qui a démarré. C'est de nous assurer que l'argent a été utilisé à des fins publiques et ça a été décaissé pour le paiement des primes des joueurs. Il faut qu'on nous dise où l'argent a été réellement affecté. C'est où se pose la question. Toute la question se pose à savoir de ça. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir où est-ce que l'argent a été affecté. C'est pas de limoger le ministre, parce que personnellement, ma préoccupation n'est pas de savoir est-ce que le ministre a été limogé ou. Derrière, c'est de nous dire si le ministre est coupable. S'il est coupable, qu'il est limogé, d'accord, mais si ce n'est pas le cas, qu'on nous dise où l'argent a été affecté, qu'on mène cette enquête jusqu'au bout.
Qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Merci beaucoup Jean, qu'on retrouve le milliard de francs CFA qui a disparu dans les primes des joueurs ivoiriens. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous lundi. Appel sur l'actualité, ce sera présenté par Juan Gomez. On reviendra sur le Burundi, le coup d'État avorté, l'arrestation des leaders mutins qui avaient tenté de prendre le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Vous nous rejoignez au 339 693 693 70.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.
Dans 10 minutes, juste